Les quatre top signal 13h sur Radio Ndekeluka et Dalotin Dikwela pour la grande édition de la mi-journée. Eda, bonjour.
Bonjour Nina Verdiane Yabode, bonjour à toutes et à tous. Déjà, des conséquences de l'augmentation des prix du carburant à la pompe depuis ce matin, très peu de taxis et bus circulent à Bangui. À côté de la hausse des prix du carburant, des conducteurs de motos dénoncent des raquettes de la part des gendarmes. Ils ont manifesté ce matin devant la barrière motorisée de Nzila sur la route de Mbaïki. Et puis les derniers hommages aujourd'hui au pape émérite Benoît XVI. Les cérémonies des obsèques se déroulent en ce moment à Vatican. Témoignage à suivre du vicaire de la cathédrale de l'Immaculée Conception de Bangui. En sport, le centre de développement de Dakar se préoccupe de l'essor de l'athlétisme en République centrafricaine. Il organise depuis ce matin à Bangui un séminaire à l'intention des membres du bureau fédéral.
Et dans nous ouvrons ce journal avec des conséquences de l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Le transport public est timide depuis ce matin.
Certains conducteurs de taxis et bus ont cessé de travailler. Ils protestent contre cette augmentation des prix des produits pétroliers, une situation qui met à mal les usagers du transport urbain. On en parle avec François Kossimé Palato.
Dans les différentes avenues sillonnées ce matin, il n'y a que des mototaxis, des voitures personnelles et quelques véhicules d'ONG qui circulent. Au terminal nord, principale gare des bus de Bangui, l'endroit est vide à part les quelques vendeurs qui s'y trouvent. Une situation décriée par les usagers traditionnels de bus.
J'étais venu en ville à bord d'un bus, mais à 10h, il n'y a plus de circulation. Comment vais-je rentrer à la maison?
Les conducteurs de taxi-moto fixent le prix du transport de ville à Picadouce à 500 francs. Je ne gagne que 30 000 francs le mois. Mais si j'investis tout dans les transports, comment je vais nourrir ma famille?
Les conducteurs refusent de travailler parce qu'ils disent attendre l'augmentation du prix du transport, comme l'a fait pour le carburant.
Si les prix du carburant sont revus à la hausse, son procuré à la station reste un problème. Ulrich, un conducteur.
Ils ont augmenté les prix des hydrocarbures et il est difficile de s'en procurer. Dans les stations, ils ne vendent que pendant une heure. C'est difficile.
Chris Ron est un autre conducteur de taxi que nous avons rencontré ici à la tête de stationnement de Pétévo.
C'est difficile avec cette situation. Nous passons plusieurs heures dans le rang et les clients ne veulent pas monter à bord à cause du prix de transport qu'on a fixé à 250.
Pendant que les conducteurs de taxis et bus refusent de travailler, ceux de mototaxis se font des bénéfices et augmentent les prix.
Avec cette situation, on ne peut pas transporter une personne avec le même prix qu'avant. Nous sommes obligés d'augmenter le prix à 500 francs afin d'avoir de quoi à survivre.
Déjà, les conducteurs de taxis et bus menacent de prolonger la cessation de travail pendant 3 jours. Jésus, chargé de discipline des conducteurs de bus de Pétévo combattants.
Il n'y a pas d'entente entre nous et les clients à cause du prix de transport qu'on a fixé. Voilà pourquoi on a arrêté le travail. Le gouvernement doit aussi se prononcer sur les prix de transport. S'il ne le fait pas jusqu'à demain, nous serons obligés de prolonger l'arrêt de travail jusqu'à 3 jours.
Le gouvernement centrafricain a augmenté depuis mardi les prix d'hydrocarbures dans les stations-service. Le litre de gasoil est désormais à 1450, 1300 francs pour l'essence et 1150 francs le litre du pétrole.
Des réactions se multiplient après l'augmentation du prix de carburant à la station par le gouvernement.
Des propriétaires de véhicules et motos dénoncent une augmentation de trop et déplorent la non-augmentation du salaire des fonctionnaires. Quelques propriétaires d'engins sont interrogés par Martial Steve Bettising.
On est obligé de prendre ça, on n'a rien à faire. Mais le prix là, ça a beaucoup augmenté. Ça doit revenir 1000 et quelques, mais jusqu'à 1300 là, c'est vraiment trop cher.
Par rapport à ce prix là, les taxis motos vont vraiment augmenter leur prix. Comme j'ai ma petite moto, je me débrouille avec. Mais le gros problème, c'est que en République centrafricaine, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Que le mieux, c'est d'augmenter un peu. Si c'est à 1000 francs, ça va, mais à 1300, vraiment, je suis très désolé.
L'augmentation du carburant est décourageante déjà.
On voit qu'un litre, 1300 là.
Nous achetons le litre à 1300 francs à la station. Avec la situation du pays, nous ne savons quoi faire. Même avec cette augmentation, il est aussi difficile d'en trouver.
Une autre réaction, c'est de l'Observatoire centrafricain de la consommation.
Marcel Mokwapi, président de cette organisation, s'inquiète des conséquences de cette augmentation sur la population. Il est au micro de Martial Steve Bettisinga.
Nous regrettons que dans le dispositif de discussion de cette situation, tous les acteurs concernés ne sont pas associés, notamment nous, les structures qui assurons la protection des consommateurs. On n'est pas associés parce qu'il faut qu'il y ait un consensus. Nous sommes d'accord pour que l'État cherche les moyens pour compenser ce manque de subventions. Mais le consensus se dégage sur quoi? Est-ce que le pouvoir d'achat des centrafricains, est-ce que c'est bien régulé? Est-ce que c'est bien suivi? Est-ce que ça correspond au coût de la vie? Le plus gros employeur ici, c'est l'État. Depuis des années, les salaires n'ont jamais été rehaussés. Et aujourd'hui, les denrées alimentaires, sans parler de transport. Aujourd'hui, j'ai pris un taxi, on me dit que c'est 250 francs maintenant. Y a-t-il eu une bonne régulation de ces prix pour qu'on fasse une adéquation par rapport à cette augmentation? Parce qu'aujourd'hui, le carburant est un bien stratégique du fait que ça alimente beaucoup de choses. Les transporteurs, ça c'est le gros, parce qu'aujourd'hui, le secteur de transport doit être dynamique. Pour qu'il soit dynamique, il faut vraiment qu'il ait tout ce qui concerne justement le carburant et autres.
À côté du prix du carburant, les formalités sur les barrières restent un souci pour les conducteurs de mototaxis.
Ils ont manifesté ce matin à la barrière de Nzila, 11 km de Bangui, sur la route de Mbaïki. Ces conducteurs dénoncent des rackets dont ils font l'objet de la part des gendarmes motorisés. Reportage de Nathan de Saint-Stéphane Ngombe.
Ils sont une centaine de conducteurs de moto. Ils manifestent contre ce qu'ils qualifient d'extorsion de fonds par les gendarmes motorisés basés au poste de Zila à 11 km de Bangui sur la route de Mbaï. À Nindungia, une commerçante qui emprunte souvent cette route.
Le prix du transport a augmenté. On ne s'en sort pas de nos petits commerces parce qu'ils soutirent de l'argent aux conducteurs. Pour nos marchandises, on payait 1500 francs ou 2000 francs. Actuellement, on paye 5000 francs. C'est trop.
Au Dilan, un autre conducteur fait le point sur le montant de leur formalité journalière.
De ce qu'il y a au PK9, on paye au total 3500 en termes de formalité sur les différentes barrières, même pour la moindre chose. On n'a pas un revenu conséquent. C'est avec ça qu'on nourrit nos familles. Nous sommes dépassés.
Patrick, quant à lui, est pénalisé durant toute la journée pour le non-paiement de la dite formalité.
Des fois, je leur donne 1950
francs. Ils refusent et ils m'ont exigé de verser 2000 francs. Un jour, ils m'ont donné une quittance de 8000 francs. Je leur ai demandé d'aller payer au niveau du trésor. Ils ont refusé. Ils m'ont retenu jusqu'à 15h, même 16h. Puis ils m'ont demandé 4000 francs ou 5000 francs avant que je sois libéré.
Grâce à Dieu, le président du bureau de l'association des taximotos annonce une cessation de leur activité dans les jours à venir.
Avec 1300 francs le litre comme prix du carburant et 2000 francs pour la formalité, combien gagnent-ils pour subvenir à leurs besoins? Comment auront-ils le versement? Ensemble, nous disons non. Le syndicat de bus va suspendre ses activités et nous ferons autant. Les gens iront au champ à pied.
Les gendarmes au poste de Zila indiquent qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur cette manifestation sans l'autorisation de leur hiérarchie. En octobre dernier, la haute autorité chargée de la bonne gouvernance avait fait une visite surprise à cette barrière. Les éléments en service avaient aussi refusé de donner des explications.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekelo Kaïda après plus de 3 mois d'insécurité marquée par des combats entre deux groupes rivaux anti-Balaka Njuku de la Kimo. Les activités ont repris dans la localité.
Selon le député de Njuku, Jean-Claude Komia Sambia, la présence des forces de défense et de sécurité déployées fin novembre à Njuku a redonné confiance à la population qui vaque désormais librement à ses occupations. Propos recueillis encore par Martial Steve Mbetisinga.
Je tiens d'abord à remercier fermement la radio de Keluka qui ne nous avait pas abandonnés durant ces durs moments. Vraiment, au nom de la population de Njuku, je vous jette des fleurs. Il fallait que Ndekeluka continue dans ce sens. Mais par rapport à la réalité du terrain, aujourd'hui, il y a accalmie parce que les armes ne tournent plus. Présentement, le gouvernement aujourd'hui a déployé des forces de défense. À Njuku, ils sont présentement là. Et grâce à la présence des forces de défense, la population se sent aujourd'hui en sécurité. Mais une chose est que nous avons appris que la MINUSCA est en train d'entreprendre une démarche de désarmement dans la circonscription. Mais nous voudrions bien que cette démarche se fasse selon les règles de l'art pour ne pas que d'ici demain, on puisse encore retomber dans la même situation.
L'Église catholique rend un dernier hommage aujourd'hui au pape émérite Benoît XVI.
Décédé le samedi 31 décembre à l'âge de 95 ans, Benoît XVI, son vrai nom Joseph Aloysius Ratzinger, est l'un des rares papes à démissionner après leur désignation pour des raisons sanitaires. Il démissionne en 2013. Événement qui s'était produit il y avait 700 ans. Durant 8 ans de pontificat, il a effectué des voyages en Afrique, précisément en Angola, au Cameroun et au Bénin. Benoît XVI a été un réformateur sur le plan liturgique, selon Père Mathieu Fabrice Évrard Bondobo, vicaire général de l'archidiocèse de Bangui. Il est au micro de Maxime Joël Lalaï.
Je garde le souvenir d'un homme très humble, qui savait se faire petit, mais d'une grande intelligence, de cette intelligence vraiment inouïe. À mon avis, très peu de personnes sur cette terre ont de ces qualités si spéciales en Benoît XVI. Une intelligence qui lui permettait d'être à l'aise dans toutes les matières, philosophiques, théologiques, l'exégèse, beaucoup d'autres disciplines, et même des sciences profanes, il était vraiment très à l'aise. Un homme très doué. Beaucoup de réformes, d'ailleurs, du point de vue de la liturgie. Benoît XVI nous a aidés à aller à l'essentiel de la liturgie, parce que parfois, notre liturgie, ça ne fait pas attention, ça frôle un peu, et quelque chose allant dans le sens de folklore, un peu de bruit, un peu de ce qui pousse un peu à nous divertir un tout petit peu. Donc lui, il nous a amenés à aller au cœur de la liturgie, la centralité du Christ, le respect et surtout la manière même de célébrer.
Actualité africaine en bref, affaire des 46 soldats ivoiriens à Bamako. Le président togolais Faure Gnassingbé plaide pour la grâce présidentielle.
Le président togolais a passé une visite de quelques heures hier à Bamako. Il était question d'évoquer le sort des 46 soldats ivoiriens détenus depuis juillet dernier au Mali. Un dossier dans lequel Lomé se pose en médiateur. La visite de Faure Gnassingbé au Mali est une étape importante dans cette affaire. Entre-temps, malgré l'expérience de l'ultimatum lancé par la CDAO pour la libération de ces soldats ivoiriens, il n'y aura pas de sanctions contre le Mali, a déclaré Oumarou Sissoko Embola, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces militaires ont été condamnés à 20 ans de prison la semaine dernière pour attentat et complot contre le gouvernement d'Assimi Goïta. La page porte une présentation de Claire Assambadenga. Claire, bonjour.
Bonjour à vous, Eda Lotindiko. Confort d'écoute à tous.
Commençons avec de l'athlétisme. Un séminaire à l'intention des membres du bureau fédéral se déroule en ce moment à l'INJS à Bangui.
Oui, Eda, cette rencontre est axée sur les stratégies du développement de l'athlétisme en République centrafricaine. Ce séminaire est organisé par le Centre de développement de Dakar en partenariat avec la Fédération centrafricaine d'athlétisme. Bruno Konga, président de la Fédération centrafricaine d'athlétisme.
Le Centre régional du développement de Dakar a un calendrier d'activités. Il met toujours au profit des fédérations nationales, cette instance internationale, qui s'occupe du renforcement de capacités de tous les membres du bureau des fédérations nationales. Et donc, ils ont inscrit aujourd'hui que nos membres puissent, n'est-ce pas, bénéficier de la formation qui s'intitule « Les stratégies du développement de l'athlétisme ». Aujourd'hui, il y a 4 participants. Il s'agit de Madame Yagbingao, Monsieur Masilingai, le directeur technique Monsieur Mban Freddy, il y a Monsieur Dawe aussi. Ils sont au nombre de 4. Ils sont en train de suivre présentement ce séminaire qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir de nouvelles stratégies, de pouvoir faire la promotion véritablement de notre athlétisme au niveau national.
Football, un match de la 8e journée en 2e division de la Ligue de Bangui est prévu aujourd'hui au stade Barthélemy Bouganda.
Oui, et en ce moment, Assedogo Bongo joue contre CNSS à 15h en première division. SCAF affronte Castelfoot. Hier, FD a battu Real Comboni 2-1.
Du football à l'international, la proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, de nommer un stade au nom de Pelé dans tous les pays a été entendue au Cap-Vert.
Effectivement, pour immortaliser l'icône du football, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a proposé à chacune des 211 associations membres de baptiser un stade au nom de Pelé. L'exemple est venu de l'Afrique de l'Ouest à travers le Cap-Vert, qui a été le premier pays à accepter la proposition du patron de la FIFA. Selon le premier ministre cap-verdien, Ulysse Correa Silva, son gouvernement a décidé d'honorer le roi Pelé en donnant son nom au stade national situé à Montevaca sur l'île de Santiago. La FIFA a également suivi les pas du Cap-Vert en renommant le terrain de football de son siège de Zurich en l'honneur de Pelé.
Et c'est la fin de ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite, la version en sango.